6h04. Bonne journée. Bienvenue au 98.5 FM. Nous sommes mercredi 23 octobre avec de la faible pluie, encore une fois, dans la région métropolitaine. La pluie va cesser ce matin, après quoi ce sera une alternance de soleil et de nuages et les vents vont souffler de 30 à 50 km/h, le maximum prévu aujourd'hui, 14 degrés. En soirée, partiellement nuageux, avec un minimum de 7 durant la nuit. Demain, jeudi, encore là, couvert, 60 % de probabilité d'averse, avec des vents, disons, modérés, et un maximum prévu de 13 degrés. Finalement, vendredi, soleil-nuage, avec un maximum de 12 degrés. C'est épouvantable, ce drame dans Hochelaga-Maisonneuve. Je rappelle brièvement les faits. Donc, c'est un homme qui a tué ses deux enfants, qui les a mutilés. C'est horrible. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Et ensuite, il s'est enlevé la vie. C'est la mère, la conjointe, qui, revenant du travail, a trouvé les corps et donc les policiers sont intervenus. C'est sûr que quand on entend les détails, on pense tout de suite à Guy Turcotte, aux deux enfants qui ont été, dans ce cas-là aussi, assassinés. Et de façon aussi sauvage. C'est d'une violence inouïe. Et je le disais tantôt, j'ai reçu le courriel de la conjointe d'un policier qui est intervenu parmi donc les premiers répondants hier et qui a téléphoné à sa conjointe en pleurant au téléphone, complètement bouleversé, parce qu'il venait de voir à l'intérieur. Puis le SPVM, vous le savez, a pris les premiers répondants, les a retirés de la scène de crime et les a rencontrés. On a offert de l'aide, bien sûr. Et cette conjointe, donc, m'écrivait pour me dire, c'est sûr que c'est épouvantable pour les proches, là. Mais j'espère que les auditeurs et les auditrices auront aussi une pensée pour les gens qui interviennent dans des situations comme ça. Et quand il y a des enfants en cause, et que ces enfants-là ont été mutilés, et que ce sont des policiers, policières qui ont parfois même des enfants, ce qui est le cas de celle m'a envoyé un courriel, elle dit, j'ai dit à mon conjoint qu'il devait être complètement enseveli par les images d'horreur que j'étais à la maison avec l'enfant, notre bébé de 10 mois, puis que tout allait bien. Et je sais que dans le cas de l'affaire Turcotte, un des policiers qui était intervenu plusieurs années après, je ne peux pas dire si c'est relié ou pas, mais s'est enlevé la vie. Et puis cette semaine, je recevais une ex-policière de la GRC. Il vient d'écrire un livre sur le syndrome post-traumatique. José Carey, qui raconte comment elle a été confrontée à de la violence. Puis dans les premières parties de son livre, ce sont les descriptions d'interventions où elle arrive, puis quelqu'un lui saute dessus, tente de la désarmer, ou encore des scènes d'horreur comme première intervenante, qui, au fil du temps, s'accumule. Et elle a fait, combiné à une espèce de fatigue, une espèce de burn-out, carrément une dépression. Elle n'est jamais retournée, donc, faire son travail de policière. Et elle avait quitté la route depuis déjà un certain nombre d'années quand c'est arrivé. Alors, tout ça pour vous dire que même si les policiers, les ambulanciers aussi, sont formés, on n'est pas blindé face à l'horreur. Et ce qui se passe encore ce matin, alors qu'on est sur la scène de crime, puis que les enquêteurs sont là, puis tentent de faire un bilan de ce qui s'est passé. Mais on est encore, à première vue, selon les éléments là, qu'on a, face à quelqu'un qui n'acceptait pas une rupture. Puis tu sais, on a eu Hugo Fredette, on a eu le gars Saint-Hyacinthe, les verdicts de culpabilité en fin de semaine. Là, c'est un autre cas. Il s'en est pas pris à sa conjointe ou ex-conjointe. Il s'en est pris aux enfants. Puis ça aussi, ça arrive. Il y a eu des documentaires là-dessus en disant « j'accepte pas ça ». Puis si je peux pas avoir les enfants comme je veux, ben tu les auras pas. Et j'ai déjà reçu une lettre à un moment donné de quelqu'un qui s'était enlevé la vie après avoir tué son enfant. Puis en gros, tout devenait une montagne dans la séparation, même si c'était une courte distance entre les deux domiciles. Mais c'était aussi quelqu'un qui, en quelques mots, là, je vais te faire mal, pas en te touchant physiquement, mais en tuant ceux que t'aimes. Ça, c'est pire. Toi, tu vas survivre avec ce souvenir-là. Pas simple. Et au même moment, s'ouvre la commission Laurent sur les enfants, sur la DPJ. Et hier, ce sont des enfants de la DPJ, devenus adultes, bien sûr, qui témoignent et qui racontent ce qu'ils ont vécu durant toutes ces années. Et évidemment, comme ils sont plus vieux, c'est sûr qu'il y a des situations qui ont été corrigées. Mais qu'est-ce qui revient le plus souvent? D'une part, des enfants qui se sont fait promener d'un endroit à l'autre. Cette espèce d'instabilité, souvent, on change d'intervenant à répétition. On s'en va en famille d'accueil, on change de famille d'accueil. Et là, je vous donne des exemples là, qui ont été exposés devant la commission. Des gens qui doivent déménager sans arrêt là, des 7-8 familles d'accueil. Ou encore, quand on est en centre, toute la question de l'isolement. Et quand j'ai fait les voleurs d'enfance, ben c'était ça. Des endroits... Je comprends qu'il faut arriver à un moment donné à neutraliser des ados qui sont en crise. Mais qu'est-ce qu'elles ont dit, ces intervenants, hier? Ou intervenantes? Il n'y a pas de personnel pour s'occuper de nous autres. Ils sont débordés. Faute de personnel, je cite, « On enferme des jeunes dans des chambres. C'est pas vrai que 12 jeunes doivent écoper pour le comportement d'un seul. » Alors, il n'y a pas de réponse simple et facile. Mais je vous donne un courriel que j'ai reçu un peu plus tôt cette semaine d'un père qui dit que son fils de 17 ans a fait une première fugue d'un centre jeunesse. Vous ne direz pas quel endroit, c'est pas nécessaire. Alors, il a partagé, évidemment, des informations sur son fils sur Facebook. On a retrouvé le fils 48 heures après. Et il a fait donc sa première entrée au centre jeunesse à la fin du mois d'août parce qu'il y avait des problèmes répétés liés à la consommation et que les parents étaient complètement dépassés par les événements. Et l'événement de la fugue nous a fait réaliser qu'on avait partiellement tort parce qu'on pensait que notre fils serait en sécurité au centre jeunesse. Et les policiers qui sont intervenus leur ont dit, écoutez, on va le retrouver, là, mais c'est une passoire, un centre jeunesse. Il y en a plusieurs qui disparaissent, qui font des fugues, et on passe notre temps à leur courir après, les rattraper et les ramener. Alors, il y a une différence entre faire une prison pour enfants ou pour jeunes ou pour adolescents puis avoir un système de porte battante. Puis on se souvient du cas de Laval, les filles qui faisaient des fugues puis qui se ramassaient dans des réseaux de proxénètes. Puis moi, je sais, on m'a accusé d'être responsable de ça parce que j'avais montré des endroits où ça ressemblait davantage à une prison qu'à un centre. Mais ça n'empêche pas des mesures de sécurité pareilles, ça. Alors, Régine Laurent, que je connais quand même un peu, est une femme de conviction. M. Lebon, qui est aussi là, qui est un homme d'expérience. Moi, je leur fais totalement confiance pour trouver des voies de passage pour que les enfants soient mieux protégés à la base. Puis quand il faut les retirer de leur milieu familial, ben qu'on ait quelque chose à leur offrir. Tu sais, des navettes là, entre ton parent biologique puis la famille d'accueil, puis tu sais, j'en reçois régulièrement. Puis l'autre problème, c'est comment tu fais pour évaluer les cas. Parce que tout ce que je reçois comme courriel chaque semaine, M. Arquin, aidez-moi, j'ai un problème avec la DPJ, on fait des signalements, c'est pas fond. Je peux pas enquêter, là, c'est pas ma job de faire ça. J'ai pas les pouvoirs de faire ça. Mais comment tu fais pour traiter des questions comme ça, des dossiers comme qui sont évidemment pas toujours gris, pas toujours blanc, pas toujours noir, c'est très variable, on est dans l'humain, fait que c'est pas simple. Il est 6h13, Marc, les points chauds. Merci beaucoup. Au lendemain des élections, on est dans les analyses, les autopsies, comme on dit. ce qui est très frappant, ce sont les commentaires qui reviennent depuis que M. Trudeau a été reporté au pouvoir. Et j'en ai noté quelques-uns. D'abord, parlons pour le Québec. C'est clair qu'il y a une différence entre Montréal, le Grand Montréal, là, mais disons le reste du Québec. Puis quand je dis le reste du Québec, j'inclus aussi là, les banlieues, le fameux 4-5-0. Là. Le Bloc québécois, et je trouve ça très représentatif, n'a pas réussi à faire élire son candidat dans Hochelaga-Maisonneuve. En fait, Laurier-Sainte-Marie, si vous voulez. Et depuis Jean-Claude Malépart, ça remonte loin dans le temps, là. C'était le député libéral que j'ai connu un peu, qui était un vrai député de quartier près de son monde. Puis c'était des victoires personnelles. Il connaissait tout le monde dans le quartier. Mais ça veut dire que le visage de Laurier-Sainte-Marie a changé. Et donc, le Bloc québécois, là, je pense qu'il y a une circonscription sur l'île finale. Ailleurs au Québec, est-ce que les Québécois ont voté pour le Bloc? Bien sûr, massivement, vote francophone, dans beaucoup de circonscriptions. Et les circonscriptions CAQ sont devenues des circonscriptions bloquistes. Je pense que le premier ministre a raison quand il dit « Les gens ont voté, c'est un vote nationaliste, c'est un vote sur la question des signes religieux, de la loi, là. » Et que c'est pas un vote sur la souveraineté. Et ceux qui seraient tentés de l'interpréter de cette façon-là vont avoir un réveil, je pense, brutal. Et Legault disait hier que Justin Trudeau n'a pas la légitimité pour contester devant les tribunaux la loi 21. Je pense que c'est pas une question de légitimité. D'abord, la loi 21 est contestée et sera contestée devant les tribunaux. Quel sera le rôle du gouvernement fédéral? Ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'ils vont prendre ça de front? Est-ce qu'ils vont soutenir des groupes, des individus qui vont contester la loi? Mais c'est sûr que la loi va être traînée devant le tribunal. Et c'est déjà le cas. Il y a déjà des causes qui sont en marche sur cette question-là. Et aussi la réaction de l'Ouest canadien. On a vu les premiers ministres hier. Les libéraux qui se sont fait sortir de deux provinces. Et Jason Kenney dit à Trudeau, on n'en veut pas de taxes du carbone, puis on veut un pipeline. Puis vous allez nous faire passer ça pour calmer la colère. Alors, M. Trudeau, qui est à la tête d'un gouvernement fortement minoritaire, avec devant lui le NPD qui est anti-pipeline, pour se maintenir au pouvoir, va faire des ententes avec qui? Et là, la grogne dans l'Ouest va continuer de monter. Et il faut se promener un peu sur les sites, comme on dit, dans le reste du Canada pour être capable de voir ce phénomène-là. Maintenant, dans le devoir, on revient sur l'eau et le plomb. Et la Ville de Montréal, nous dit-on, reconnaît l'échec de son plan de lutte contre le plomb dans l'eau et va changer sa stratégie de remplacement des canalisations. On va obliger les propriétaires à remplacer leur partie des tuyaux en effectuant les travaux à leur place et on va vous facturer et vous allez pouvoir l'étaler dans le temps sur une période de 15 ans. Autrement dit, la Ville dit au propriétaire, vous le faites, ou ben non, on va le faire, mais vous allez payer. Puis on va vous envoyer la facture. Alors, on sait qu'il y a des failles importantes et que ce soit les critères d'analyse ou encore les travaux qui ont été faits, mais souvent c'était partiel, là, on comprend qu'on a décidé d'aller de l'avant. Et la Ville a manqué son devoir de protection et de transparence dans le dossier de l'eau potable. C'est en tout cas une enquête qui est publiée ce matin dans le Devoir qui en fait un peu cette démonstration. Il y a aussi, je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle, ça fait partie des pluies d'études qui meublent l'actualité chaque semaine. Une consommation élevée de produits laitiers semble rehausser le risque de cancer de la prostate. Alors, ce sont des chercheurs de la clinique Mayo qui ont tirer cette conclusion. En fait, ce qu'ils disent, c'est que les produits laitiers, dans les pays où c'est fortement consommé, on remarque une incidence de cancer de la prostate qui est élevée. Puis dans les pays basés sur une alimentation davantage végétale, ben, le risque semble réduit. Autrement dit, dans les pays où on ne boit pas de lait ou presque, ben, il y a moins de cancers de prostate, alors que dans les pays où il y a une plus forte consommation, donc il pourrait y avoir peut-être un lien entre les deux. Rapidement, dans les autres nouvelles aussi ce matin, Montréal, bilan touristique. Ce que ça montre, c'est que l'été 2019 a été un été quand même qui a attiré beaucoup de touristes à Montréal. Une augmentation de 5 % par rapport à 2018. Et le Mexique qui enregistre une croissance de 20 %, la France 10 % et l'Allemagne autour de 14 %. Vous savez que tout le dossier Publisac, là, ça va se retrouver à Québec et c'est une méchante bataille qui se prépare. Je disais dans le Journal de Montréal que les patrons qui sont directement touchés, trois PDG qui, des entreprises québécoises là, qui opèrent ces Publisac, ces circulaires, mettent de la pression sur M. Legault. Et M. Legault a dit, entre autres, hier, que la consigne, en s'adressant à Manon Massé, et je cite, que la consigne sur les bouteilles de vin, ça va se faire, puis les bouteilles de fort aussi. Alors, non seulement le vin, mais des bouteilles de spiritueux. Et on reviendra sur le projet de gazoduc, puisqu'on a déposé et on amorce les consultations fédérales pour faire approuver ce gazoduc, donc de l'Ontario, et qui va parcourir 750 kilomètres pour aboutir donc dans la région de Saguenay. Ça aussi, c'est controversé. On a vu des économistes dire qu'il n'y avait pas d'impact positif avec un projet comme celui-là. Le président de Gazoduc sera avec nous. 6h21 minutes. 40 secteurs de Repentigny.